Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado-diffusion pour le 5 mars 2024. Bonjour Martin!
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde!
Comment s'est comportée la bourse pour le mois de février de façon générale et aussi depuis les deux dernières semaines?
Février a été un autre très bon mois en bourse, particulièrement du côté américain. Le S&P 500 est en hausse de 5,3% pour le mois de février. Petite baisse, là, par contre, surtout aujourd'hui, les marchés ont été un petit peu moins cléments. Les titres technologiques en tête ont baissé un peu. Donc, on parle d'une baisse de 0,3% là, dans les premiers jours de mars, mais quand même 5,34% à la hausse en février. Le Nasdaq, 6,22% à la hausse durant le mois de février. Le TSX, un peu plus modeste en février, une hausse de 1,8%. Par contre, dans les premiers jours de mars, le TSX performe mieux en hausse de 0,7%. Puis vraiment, aujourd'hui, là, le S&P 500 est en baisse de 1% exactement. Le TSX est flat, 0, en baisse de 0. Donc vraiment, on sent là, peut-être pas un changement, un vent de changement, mais l'impact des titres technologiques du côté américain qui se fait beaucoup plus sentir que du côté canadien. Dans les taux d'intérêt, on se rappelle là, que les taux d'intérêt avaient connu une certaine hausse là, durant le mois de janvier-février. On a terminé le mois de février à 3,49% sur les taux d'intérêt des obligations du Canada 10 ans. On est à 3,36 aujourd'hui, donc quand même une baisse là, de presque 0,15 en quelques jours. C'est significatif. Demain, la Banque du Canada va annoncer sa politique monétaire, du moins le taux directeur. Les attentes, c'est qu'il n'y aura pas de baisse demain encore, malheureusement pour toi et moi, Sarah, avec notre hypothèque à taux variable. Mais on continue de penser que les taux devraient commencer à baisser bientôt. Les obligations Canada 10 ans là, reflètent une certaine anticipation de baisse de taux là, à 3,36. Du côté américain, on était à 4,25 à la fin du mois de février, on est à 4,13. Le dollar canadien, qui transigeait au-dessus de 75,5 à la fin décembre, à 75 à la fin février, on est à 73,6. Donc, quand le dollar canadien baisse, ça vient réduire notre baisse sur nos titres américains. Ça vient donc, c'est un effet de hedge naturel, là, donc de contrepoids naturel aux titres américains. Dans les événements notoires, on n'en parle pas souvent parce qu'on ne les recommande pas vraiment, mais le Bitcoin a quand même frappé un sommet historique aujourd'hui à 69 000 $ américains. Par contre, il a quand même terminé la journée en baisse de 8,6. Donc, le record n'a pas duré tellement longtemps. Là, la pauvre personne qui a acheté le dernier à la fin de la journée est en baisse de 8,6% dans la journée même. Il y a plein d'autres titres qui ont touché des sommets là, dans les derniers jours. On peut penser à des titres comme Nvidia, là, le super Magnificent Seven, là, la compagnie de micro-puces pour l'intelligence artificielle. Du côté canadien, des titres comme CP Rail, Manuvie, la banque CBC, TFI International, tous des titres là, que plusieurs clients détiennent, pas nécessairement tout le monde, mais beaucoup de clients détiennent ou connaissent ces titres-là, des sommets là, des dernières années. Fait que ça va. En général, le ton est assez positif. Même, on a reçu un gestionnaire d'actions privilégiées il y a quelques semaines. Le secteur des actions privilégiées continue de bien performer. Les dividendes sont généreux dans ce secteur-là, puis avec des taux d'intérêt tranquillement qui pointent à la baisse, ben, l'attrait des dividendes des actions privilégiées devient de plus en plus intéressant. Donc, il y a peut-être des opportunités de ce côté-là. Ça dépend évidemment du profil de chacun.
Bien, merci beaucoup, Martin, pour ces nouvelles positives. La saison des REER est maintenant terminée. On peut respirer. La semaine passée, on a pris une pause de notre balado pour laisser la place à la conférence « Êtes-vous prêt pour vos impôts? » Toi et moi, nous l'avons écouté, nous l'avons trouvé super pertinent, on vous le recommande. Vous pouvez l'écouter en réécoute en utilisant le même lien envoyé initialement. Mais nous, on est dans la même ordre d'idée dans le mois de mars. Hein, on pense aux impôts, on commence à avoir des appels des clients qui disent « Bon, est-ce que je peux aller chez le comptable maintenant? Est-ce que j'ai tous les documents? » Donc, on voulait vous aider. Je pense que ça vaut la peine de faire un rappel. À chaque année, on dirait que moi, je fais le ménage de mon cerveau. Et puis, ça me fait aussi du bien de faire un rappel sur les différents reçus qui sont importants et aussi les dates à retenir. Donc, commençons par les comptes enregistré et le transfert direct selon le sous-ALENA 60L.
C'est quoi ça? Donc, on va commencer par les reçus de cotisations REER. Toutes les cotisations REER qui ont été faites jusqu'au 31 décembre, le reçu a été émis au début de janvier. Puis ensuite, durant janvier et février, le reçu a été émis là, la semaine suivante. Donc, les derniers retardataires qui ont fait des cotisations le 27, 28, 29 février, le reçu devrait être émis là, dans les prochains jours. C'est disponible en ligne sur VMD Conseil ou sur l'application. Vous pouvez aller télécharger votre reçu fiscal. L'espèce d'alinéa 60L, là, c'est quoi cette histoire-là? Donc, il y a des clients qui détiennent des comptes de retraite immobilisés, des CRI, et on fait parfois des désimmobilisations. Ça consiste à prendre le CRI, on le transfère dans un FRV, on retire l'excédent du minimum sur le maximum qu'on transfère dans le REER, et ensuite on retourne le FRV en CRI. Donc ça émet un reçu comme si on avait encaissé la totalité du CRI. Donc ça, ça fait un peu peur aux clients. Des fois, ils reçoivent un T4 RIF, mettons pour 100 000 $ puis là, ils doivent effectivement inscrire ça au rapport d'impôt, mais on reçoit aussi un reçu de cotisation REER qui est en tout point identique à une cotisation régulière, à l'exception que tout près de la signature, il y a une mention selon alinéa 60L. C'est un peu discret, mais c'est là, donc ça vient, ce reçu-là ne s'applique pas à vos droits de cotisation REER, il vient simplement annuler le reçu de T4 RIF. Qui reflète le transfert direct d'un FER ou d'un FRV vers un REER.
Puis est-ce que c'est pas le même code aussi qu'on voit quand notre conjoint décède et on transfère un...
Exact. Donc, quand il y a des transferts, donc c'est un alinéa qui permet le transfert sans impôt d'un REER à un autre REER. Mais il y a quand même des reçus fiscaux qui sont émis pour le refléter. Ça n'a pas d'impact sur l'impôt à payer, mais il faut quand même déclarer ça. Dans le doute, appelez-nous. Là, si vous recevez des reçus avec des montants qui vous semblent un peu étranges, parlez-en au comptable ou parlez à nous, mais si vous avez fait une désimmobilisation dans l'année, vous devriez le savoir, là, ça vous dit quelque chose, ben c'est relié à ça. Là. Probablement que si vous avez un T4 RIF avec un gros reçu REER, c'est relié à votre désimmobilisation.
Et si vous vous demandez c'est quoi une désimmobilisation puis vous voulez plus d'informations, on va faire un balado sur le sujet. C'est un peu compliqué, mais il y a des nouveautés à ce sujet-là aussi. Donc, éventuellement, on fera le tour. Et dans la catégorie des comptes enregistrés, qu'est-ce qu'un T4 RSP relevé 2 et un T4 RIF relevé 2 et un T4A?
Oui, donc beaucoup de lettres, beaucoup de chiffres. Oui. Donc, si j'ai fait un retrait de mon REER pour X raisons, je vais recevoir un T4 RSP. Donc, c'est l'équivalent d'un T4 d'un employeur, mais oui. C'est un revenu donc, qui provient de mon REER. Il va être indiqué sur le relevé. Le T4 RSP, ben, c'est l'impôt fédéral va être reflété parce que c'est le feuillet fédéral. Le relevé 2, ben, c'est le penchant provincial du T4 RSP sur lequel on va voir l'impôt provincial qui a été retenu à la source. C'est possible qu'on en ait retenu trop, c'est possible qu'on n'en ait pas retenu assez parce que ce revenu-là va donc s'ajouter à votre revenu imposable avec tous vos autres revenus. Puis peut-être qu'en faisant le rapport d'impôt, vous allez peut-être avoir un retour d'impôt, peut-être avoir de l'impôt à payer. Donc, on pourra ajuster au besoin les déductions à la source là, dans le futur. Mais il y a quand même des tables. Là, on ne peut pas zéro retenue à la source. Là. Il y a une table de retenue à la source minimum qui nous est imposée. T4 RIF là, ou relevé 2, c'est la même chose. C'est pour les clients souvent retraités qui ont un FER ou un FRV, c'est le feuillet fiscal qui indique les retraites du FER avec les déductions à la source appropriées. Pour les clients qui ont des enfants, qui détiennent un régime d'épargne-études et qui ont commencé à faire des retraits de leur régime d'épargne-études, donc l'étudiant va recevoir un T4A relevé 1. Donc, c'est le paiement d'aide aux études, donc le montant imposable dans les mains de l'étudiant qui va apparaître sur ce relevé-là. Et donc, l'étudiant devra effectivement produire une déclaration de revenus et s'imposer sur ce revenu-là. Bien souvent, on essaie de trouver le montant qu'on peut retirer qui fait qu'on ne paye pas d'impôts. On a certaines déductions personnelles de base qui permet de retirer un montant. Là, généralement, un étudiant... Là, une quinzaine de mille de revenus, là, on paye à peu près pas d'impôts là, avec les déductions personnelles de base. Et les droits de scolarité là, qui sont déductibles. Donc, ce sont les principaux revenus là, qu'on va recevoir.
Et ce n'est pas terminé.
Non, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Quels sont les autres reçus que les clients pourraient recevoir?
Donc, T5008 relevé 18. Donc, c'est tout ce qui a trait aux transactions sur titre. Donc, pour les clients, les investisseurs qui détiennent un compte non enregistré dans lequel ils détiennent des titres de placement, des actions, des fonds mutuels et on a fait des ventes durant l'année, donc des achats ou des ventes. Donc, quand je dispose d'un titre, quand je vends un titre, je dois m'imposer sur le gain en capital ou j'ai une perte en capital là, qui pourrait être déductible contre les gains. Donc, le T5008 va faire état de ces transactions-là. Ça fait 22 ans là, maintenant que je suis chez Valeurs Mobilières Desjardins. Pendant là, peut-être les 17 premières années, les clients recevaient ça, mais on ne savait pas combien qu'on avait payé. C'est-à-dire, OK, tu as vendu ces 12 actions-là dans l'année, mais j'ai aucune idée combien j'ai payé pour ça. Donc, on émettait le relevé des gains et pertes en capital. Dans ce cas-ci, le T5008, depuis quelques années, le prix de base rajouté est indiqué dessus. Donc, juste feuilleté là, à la troisième page, il est indiqué le produit de disposition et le coût de base rajouté des titres. Donc, le comptable a en main ce qu'il a besoin généralement pour produire le rapport d'impôt.
Et puis, si on continue, on a quel autre reçu que nos clients pourraient recevoir pour leur compte non enregistré?
Donc, les reçus T5 relevé 3, donc tout ce qui est des revenus d'intérêt ou dividendes. Donc, si je détiens des actions de titres qui payent un dividende ou si j'ai reçu des revenus d'intérêt, c'est là-dessus. Gardez en tête qu'il faut que le revenu total soit au moins 50$ pour qu'un feuillet soit émis. Donc, si j'ai juste une petite action et j'ai reçu 12$ de dividendes dans l'année, il n'y a pas de feuillet d'émis. Il n'y a pas de feuillet d'émis à personne. Là. Donc, en principe, on doit s'imposer sur le revenu reçu, mais il n'y a pas de feuillet d'émis à personne.
Donc, pas au gouvernement.
Il n'y a pas de feuillet d'émis à personne.
OK.
On émet aussi donc T3 relevé 16, donc qui sont les revenus provenant des parts de fiducie ou des fonds négociés en bourse. Donc, ça, c'est jusqu'à la fin mars que les émetteurs ont pour l'émettre. Souvent, ça rentre là, pas mal, tu sais, 20-25 mars. Des fois, il y en a comme qu'ils le mettent à la poste le 31 mars. Là. Fait que c'est pas impossible qu'il y ait des trucs qui rentrent le 2, 3, 4, 5 avril. Donc, si on détient dans son portefeuille non enregistré des titres dont le symbole se termine par .un, ça devrait être un indice là, que ça se peut qu'on reçoive un feuillet comme celui-là. Si on a des fonds négociés en bourse, là, les fameux iShares ou les BMO, le fonds FNB, donc ça rentre à la fin mars. Il y a le T53 pour les revenus de société de personnes. Donc, le T3, c'était les revenus de fiducie. Donc, tous les fonds mutuels, c'est des fiducies. Il y a des sociétés de personnes qui existent, entre autres les Brookfield. Bien souvent, là, les Brookfield Infrastructure, Brookfield Renewable, mais aussi les sociétés en commandite pour les abris fiscaux. Là, on a une poignée de clients qui ont des abris fiscaux. Ça également, là, c'est produit à la fin du mois de mars. Brookfield ne sont pas reconnus pour mettre le reçu à la poste bien vite. Là. En général, ça peut rentrer là, dans les dernières journées du mois de mars. Donc, ça vaut il faut attendre là, ces relevés-là avant d'aller voir le comptable. Vous allez aussi, là, très important, parce qu'on nous pose la question à chaque année. Donc, nous, on émet les reçus, les feuillets pour tout ce qui est reçu reçu comme revenu chez VMD. Mais les fonds mutuels, donc si je détiens des fonds Fidélité, des fonds Manuvie, des fonds, là, peu importe l'émetteur, puis vous recevez par la poste une enveloppe. Là, il faut ouvrir l'enveloppe. Il y a peut-être un reçu là-dedans, un T5, un relevé 3, qu'on doit donner au comptable. Donc, il n'est pas inclus dans les relevés, dans les T3 que Desjardins émet. Donc, très important d'être à l'affût des enveloppes provenant des compagnies de fonds mutuels, d'ouvrir l'enveloppe puis de lire toutes les pages.
Et puis, c'est aussi super important de... sont émis pour qu'est-ce qu'on a détenu dans notre compte. Donc, c'est possible qu'on a vendu quelque chose durant l'année, qu'on ne l'a plus dans notre compte, mais qu'on l'avait en début d'année. Donc, c'est important de considérer, quand on regarde tous les feuillets fiscaux qu'on a reçus, est-ce que j'ai reçu non seulement pour les titres que je détiens maintenant, mais pour les titres que j'aurais vendus?
Donc, puis en dernier lieu, donc pour les clients qui ont un compte à honoraires, donc il y a un relevé des honoraires qui est émis et sur lequel il est indiqué la portion des honoraires qui s'applique au compte non enregistré, qui est donc déductible d'impôts. Donc, on ne déduit pas là, les commissions qu'on paye sur des achats et ventes de titres, ce n'est pas des frais financiers, ce n'est pas déductible des montants, ça s'additionne au coût des titres. Là, ça devient un peu déductible indirectement sous forme de gains ou pertes en capital. Mais vraiment, les honoraires, c'est uniquement la portion de votre compte non enregistré. La logique, elle est assez simple. Dans un compte non enregistré, je paye de l'impôt sur les revenus, je peux donc déduire les frais qui s'y rattachent. Dans un REER ou un CELI, je n'ai pas d'impôt à payer sur les revenus, je ne peux donc pas déduire les frais financiers qui s'y rattachent. Donc, il y a une certaine logique à ça.
Parfait. Et puis, si vous avez des questions concernant tous ces relevés que vous pouvez possiblement recevoir, on a un beau rapport à l'interne qui nous aide à cibler si vous avez bien tout reçu. Donc, encore une fois, communiquer avec nous. Qu'est-ce qu'un rapport de biens étrangers et un rapport de gains et pertes?
Ouais, donc le rapport de biens étrangers, donc on sait qu'au Canada, on doit à chaque année sur notre rapport d'impôt déclarer si on détient des biens étrangers d'une valeur de plus de 100 000 $ canadiens. C'est pas par bien, là, c'est au total. Donc c'est possible que dans... Et là, ça s'applique uniquement pour les comptes non enregistrés. Donc si j'ai des actions de Microsoft dans mon REER, là, ça compte pas. Mais si j'ai des actions de Microsoft dans mon compte comptant, c'est un bien étranger. Donc mettons, Sarah, j'ai 30 000 $ d'actions de Microsoft. J'ai aussi un condo en Floride qui vaut 80 000. Donc, ben là, j'étais à 110. Je dois produire une déclaration. Donc, ni le condo, ni mes actions de Microsoft valent plus que 100 000. Donc, par défaut, nous, comme conseillers, ben vous avez juste 30 000 de titres étrangers. Donc, il n'y a pas de relevé de biens étrangers, mais il faut le demander. On va émettre le relevé des biens étrangers pour permettre au comptable de compléter la T1135 pour le relevé des biens. Donc, on va indiquer sur ce relevé-là la valeur comptable la plus élevée. Donc, mettons que j'ai acheté mes Microsoft il y a 10 ans à 20 000 $, puis aujourd'hui, ça vaut 200 000. Bien, ma valeur comptable, c'est 20 000. Donc, ça se peut que je sois toujours en bas du 100 000, même si la valeur au marché, elle est plus élevée. C'est la valeur comptable qui est indiquée. Dans le cas du rapport de gains et pertes, c'est un peu le penchant du T5008. Là, c'est les transactions, toutes les dispositions qui ont eu lieu dans l'année. Et puis, ben, ça va redire combien j'ai payé, combien de temps je l'ai détenu. Mais ça va donner aussi le prix par unité. Donc, il y a un petit peu plus de détails sur ce rapport-là. C'est pour ça qu'il y a certains clients comptables qui continuent de le demander, je pense, plutôt que le T5008. C'est correct. Si vous le voulez, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. On vous retourne. Ça prend quelques secondes à produire. Il n'y a aucun problème.
On se le fait demander de moins en moins à cause du T5008. Puis, quand est-ce que les clients peuvent se dire « Bon, j'ai tout reçu de Valeurs mobilières Desjardins. La vie est belle. J'ai mes autres reçus que j'ai de besoin. Je m'en vais chez mon comptable. »
Bien, généralement, là, le 3-4 avril, on est pas mal sûr de notre affaire. De moins en moins, on met des sociétés de fiducie ou des sociétés de personnes dans les comptes non enregistrés, un peu pour ça, parce qu'on sait que les reçus fiscaux sont tardifs puis ils sont plus difficiles à compléter. Mais il faut s'assurer qu'on ait tout. On a un rapport qui peut être produit aussi à l'interne qui va indiquer, bon, mais pour le compte XY de Sarah, voici tous les revenus qui ont été reçus. Alors, ce rapport-là peut aider un client à dire, OK, je suis correct, là, j'ai effectivement un feuillet fiscal pour chacune des lignes sur mon rapport, donc je suis correct.
Exactement.
Mais n'hésitez pas, appelez-nous, on va vous dire qu'est-ce que vous avez dans les mains, puis oui, c'est complet.
Exactement. Puis on est aussi très confortable à travailler avec les professionnels dans votre vie. Donc, si les comptables ont des questions, ils peuvent nous parler directement. Il n'y a aucun problème. Le client doit juste nous donner l'autorisation. Ça va nous faire plaisir d'aider votre comptable. Les reçus sont disponibles en ligne, donc sur vmdconseil.ca ou par la poste, dépendant de comment vous avez demandé de les recevoir.
C'est disponible sur l'application mobile aussi, oui. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Là, avant, c'était seulement en ligne, mais l'application mobile à profil, documents, les reçus fiscaux sont là sur le téléphone maintenant, pas juste sur le VMD Conseil.
Donc, appelez-nous si vous avez des questions. C'est la période des impôts. On est au courant puis on est disponible pour vous. Merci beaucoup, Martin. Pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions concernant ce balado ou vos objectifs de placement ou vous avez des questions concernant le marché, Martin et moi sommes toujours disponibles. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.